Auditeurs, c'est parti pour la deuxième tranche du magazine de la vie au quotidien au Capi Service. Nous allons parler dans cette deuxième partie de l'émission du pangolin. Comment lutter contre le braconnage des pangolins en République démocratique du Congo. Vous savez que la viande de ces mammifères est très, la demande est très très forte. Et c'est parmi les espèces en voie d'extinction, selon l'Union internationale pour la conservation de la nature. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui professeur Amundala Drazo. Il est zoologiste et écologiste. Et nous recevrons également Claude Keboy, coordonnateur de l'ONG Synergie Rurale, Action Paysanne. Professeur Amundala, vous êtes en ligne. Bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Bienvenue dans Capi Service, le magazine de la vie au quotidien. Des questions et préoccupations par rapport au braconnage des pangolins, appelés au 081 890 63 94. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net. Dieudonné Nyanga à la mise en onde. Marcel Ngombo assure la coordination. Tati Mapoukou à la réalisation. Jody Daniel Kachama au micro.
Ngoma ya kwetu. Une vitrine de la musique traditionnelle folklorique du patrimoine sur Radio Okapi, la radio de toutes les musiques. Prenez rendez-vous tous les mardis et mercredis à 15h30, heure de Kinshasa. La culture, c'est tout ce qui nous reste quand on a tout perdu.
Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Capi Service. Nous parlons du braconnage des pangolins. Vous savez, le pangolin est l'un des mammifères dont la demande en viande est très élevée dans plusieurs provinces du pays. C'est une espèce en voie de distinction selon l'Union internationale pour la conservation de la nature. Et chaque année, ce sont plus de 40 tonnes d'écailles des pangolins qui sont saisies en Afrique. C'est qui revient à dire que plus de 30 000 animaux sont massacrés chaque année. Alors, comment se présente la situation du braconnage des pangolins à RDC et comment lutter efficacement contre cela? Eh bien, cette émission va tourner autour de ces questions. Nous avons déjà en ligne le professeur Amundala Drazo. Il est zoologiste et écologiste. Professeur, encore une fois, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Voilà. D'abord, pouvez-vous nous présenter le pangolin, cette espèce de mammifère appelée pangolin?
Très bien. Le pangolin, c'est un mammifère, c'est un des rares mammifères aujourd'hui dont le corps est couvert d'écailles sur la partie dorsale et la partie ventrale est couverte de poils. C'est donc un des mammifères assez exceptionnels que nous avons aujourd'hui. Bien évidemment, il y a encore un autre groupe tatou qu'on trouve en Amérique, mais en Afrique et en Asie, nous avons justement les pangolins. Les pangolins, donc, c'est un mammifère, comme je disais, dont le corps, sur sa partie dorsale, est couvert d'écailles. Et ces groupes zoologiques est trouvé actuellement en Asie et en Afrique subsaharienne. Et donc c'est un groupe qui est depuis un temps vraiment traqué à cause de ces écailles auxquelles on associe certaines forces mystiques, etc. Mais actuellement aussi sa chair qui est devenue trop prisée principalement par la communauté chinoise.
On associe ces écailles à des vertus, à des forces mystiques, c'est ça?
Voilà, on associe ces écailles et même sa chair aujourd'hui à des vertus mystiques. On pense que les écailles des pangolins, lorsqu'on on essaie de les calciner et de les rendre en poudre, ça peut guérir une trentaine de maladies. Et parmi ces maladies, il y a des troubles érectiles. Et donc des personnes de certain âge en Asie ont habitude à pouvoir prendre la poudre, si vous voulez, la poudre d'écailles. des cas des pangolins et on pense que ça résout les problèmes de troubles érectiles et bien d'autres maladies, bien sûr.
Et à RDC, dans quelle partie du pays on retrouve ces mammifères, ces pangolins?
Le pangolin, chez nous, dans la région forestière, mais aussi une bonne partie de la région de savane, on retrouve le pangolin. Il faut dire que le pangolin, à travers le monde, aujourd'hui, 8 espèces sont connues. Et de ces 8 espèces, 4 sont retrouvées en République du Congo. Et donc, parmi ces 4, il y a le pangolin à queue longue, qu'on appelle le pangolin tétradactyle. Il y a le pangolin de Témenc, ou pangolin terrestre du Cap. Il y a les pangolins géants ou grands pangolins terrestres. Et il y a aussi les pangolins communs qu'on appelle pangolins à écailles tricuspices. Donc ce sont là les 4 espèces, si vous voulez, les 4 groupes. Je ne vais pas embrouiller les auditeurs par les noms scientifiques. Donc ce sont là les 4 groupes que l'on retrouve en République du Congo et qui sont suffisamment exploités aujourd'hui, vraiment de manière irrationnelle. Et donc ces groupes sont retrouvés dans la région de savane et aussi dans la région forestière. Il faut dire que presque sur toute l'étendue de la République du Congo, on peut retrouver ces différentes espèces.
Aujourd'hui, on peut dire que c'est une espèce en voie de distinction à cause du braconnage.
Voilà. Donc c'est une espèce qui est vraiment en voie de disparition. C'est comme ça que des scientifiques et des amoureux de pangolins, si vous voulez, s'étaient réunis. Ils ont trouvé qu'il fallait trouver justement un jour au courant de l'année au cours duquel on devrait interpeller les dirigeants, les communautés locales, etc. pour essayer de voir comment il faut gérer ces groupes de manière durable pour éviter justement sa disparition. C'est comme ça que les gens se réunissent. Déjà à partir de 2012, on a pensé que le troisième semaine du mois de février pourrait être considéré comme journée mondiale du pangolin, justement pour essayer d'attirer l'attention de tous les acteurs impliqués dans l'exploitation de ces groupes à pouvoir essayer de les garder un peu plus sérieusement pour ne pas perdre, pour ne pas connaître la disparition totale de cette espèce.
Oui. Et aujourd'hui, à quel état des lieux vous faites du braconnage des pangolins en RDC?
Il faut dire que la situation est assez dramatique parce que la population n'a pas encore vraiment compris les problèmes. Et vous voyez qu'aujourd'hui, la demande de pays asiatiques reste très, très élevée. Et vous savez qu'aujourd'hui, dans plusieurs pays de l'Asie, 1 kilo de pangolin est vendu à environ 1000 euros. Et la chair d'un animal est vendue à environ 1750 euros. Et donc, dans nos contrées, les gens sont pauvres, etc. Lorsque ces commerçants arrivent, s'ils proposent 100 dollars, par exemple, pour un pangolin, le pauvre villageois, il va très vite courir pour le tuer. Et surtout que ces grands zoologiques ont une mobilité très, très nulle. Le pangolin, lorsqu'il est en présence d'un prédateur ou en présence d'un intrus, il s'enroule simplement. Et donc tout le monde a la possibilité, même un petit enfant a la possibilité de ramasser ses pangolins et ensuite de les tuer. Ça fait donc, c'est un groupe qui est vraiment menacé et il y a une très grande pression parce qu'il y a de plus en plus de demandes. Et en Chine même, si vous voulez, dans les pays asiatiques, les pangolins se font rares, vraiment rares pour le moment. Et donc l'unique réservoir qu'on a, c'est ici, en Afrique centrale et au Congo. Depuis un certain temps, quand même, on essaie de pousser pour essayer de sensibiliser les gens, etc., de manière à ce que les gens comprennent les liens fondés de ces groupes zoologiques et le rôle, d'ailleurs, que ces groupes zoologiques jouent dans les écosystèmes ici. C'est comme ça qu'on essaie de pousser, mais il faut dire que ce n'est pas encore vraiment où il faut. Reconnaissons tout de même que l'ICCN essaie à travers plusieurs services dans les aéroports, etc., dans les frontières, essaie tout de même de pouvoir juguler la situation, mais ça ne va pas encore. Il faut un peu plus d'efforts pour arriver à juguler à 80% la situation qui prévaut justement sur le commerce de pangolins en RDC.
Donc, avec les prix que vous avez donnés, on se rend compte que ça paraît être une bonne affaire pour les braconniers qui n'ont peut-être pas l'idée d'abandonner. Et comment opèrent-ils? Est-ce que vous avez une idée sur la manière dont ces braconniers opèrent?
Généralement, les braconniers locaux ne gagnent pas trop, voyez, mais ce sont plutôt les intermédiaires, si vous voulez. qui viennent d'ailleurs, et pour la plupart des cas, ce sont les Africains, etc., qui ont des connexions avec la Chine, c'est eux qui viennent acheter, alors que les braconniers, eux, ils peuvent tuer les villageois, quelques individus, etc., mais ce sont les autres qui viennent, et c'est eux qui gagnent la plus grande dividende. C'est comme ça que des sensibilisations sont en train d'être réalisées. Ici, à Kisangani, par exemple, pour essayer de montrer à la population que vous ne gagnez rien avec ça. Mais les conséquences de la disparition de ces groupes biologiques pourraient être très fatales pour les écosystèmes d'ici. Et donc, c'est quand même un marché assez alléchant aujourd'hui, parce que les gens gagnent des millions derrière, mais au moins l'ICSN a instruit le service au niveau de la frontière, etc., l'aéroport, pour essayer d'appréhender ces intermédiaires qui viendraient éventuellement pour essayer d'organiser les marchés de ces pangolins. Mais il faut dire qu'il faut encore beaucoup plus d'efforts pour arriver vraiment à réduire, hein, dans une grande proportion, le marché de pangolins dans la région.
Bien, on va accueillir les auditeurs. Nous avons Barnabé à Bukavu et Magloire à Lubumbashi. Bonjour Barnabé. Barnabé, bonjour, vous êtes à Bukavu.
Oui, bonjour Radio Okapi, nous saluons tous les invités de la Radio Okapi.
Barnabé, tous les auditeurs. Alors, Barnabé, oui, quelle est votre question par rapport au braconnage des pangolins?
Oui, merci beaucoup. Oui, j'ai intervenu pour essayer d'éclairer à l'opinion internationale que nos parcs sont devenus vraiment des recherches de vie, puisqu'à un certain temps, si vous regardez par exemple ici à Bukavu, les populations qui sont vraiment riveraines de tous les parcs par-ci, par-là, ils se cherchent dans des parcs qui sont plus proches. À un certain temps, nous, ça nous détresse et ça détruit d'ailleurs notre espace qui est le patrimoine mondial. Alors, je voudrais que...
Barnabé, est-ce que dans là-bas, à Bukavu, il y a beaucoup de pangolins?
Oui, il y a beaucoup de pangolins qui se donnent dans les parcs de Kahuzi-Biega, où je suis d'ailleurs plus proche, et cherchent même à tuer certains animaux qui peuvent constituer la richesse ou la fierté de notre pays. Mais à un certain temps, nous constatons que l'État vraiment ne prend pas cette précaution de bien pouvoir les sécuriser. Nous avons certains gardes de parc qui essaient de contrôler, mais ils ne parviennent pas à les réussir. Mais aussi, il y a des chasseurs qui partent dans les parcs avec leurs chiens là et tant d'autres pièges pour tuer ces animaux de manière là vraiment qu'on ne peut pas les citer ici. Mais nous constatons par cela que c'est l'État qui ne prend pas en garde convenablement la sécurité de ce parc. Alors, c'est pourquoi je voudrais que l'invité puisse nous éclairer par quel mécanisme, puisqu'à un certain temps, certains prescrits ou certaines réglementations ne sont pas considérées comme telles pour bien pouvoir sécuriser. Quels d'autres moyens nécessaires qu'on peut utiliser pour cette fois-là, essayer de protéger bien nos animaux qui constituent notre fierté ou notre richesse dans ce pays.
Merci Barnabé. Magloire, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Merci. Bonjour messieurs les journalistes, bonjour la radio.
On vous écoute.
Pour ce qui est de ma préoccupation, seulement je me réfère d'abord à l'objectif fixant la création du tout premier parc national en RDC, et fixant la protection des animaux rares et peu productifs. Alors que le pangolin venait de s'inscrire aussi parmi les animaux en voie de disparition, pour rassurer maintenant, moi j'aimerais, pour assurer la protection, il serait souhaitable que cette date du 20 février soit enseignée dans des milieux scolaires, mais aussi en sensibilisant la population sur les bien fondés de son existence, de l'existence de ces pangolins, l'importance de ces écailles ignorées par un grand nombre de Congolais. Mais aussi que l'inconvénient de sa disparition soit informé par la jeunesse, car on a toujours dit que si jeunesse savait, vieillesse pouvait. Deuxièmement, il serait mieux aussi que les activités de classe promenade à milieu scolaire pour faire découvrir les enfants la rareté de ces animaux, mais aussi leur importance soient organisées et exigées afin que les futurs braconniers soient informés. Je donne cela pour me référer à la date du 1er août, où on a toujours célébré la journée des parents, On a toujours vu les gens se mobiliser, se sensibiliser, descendre au cimetière pour visiter. Et là, c'est une date qui est, on respecte les âmes, et c'est une date qui est aggravée. Maintenant, ça serait important aussi que les élèves à l'école effectuent des descentes afin de visiter et découvrir l'importance de ces animaux rares. Autre préoccupation, que les lois portant protection des pangolais et réglementation de braconnage des pangolais soient élaborées selon la quantité, mais aussi de les faire respecter.
D'accord.
Quatrième occupation, qu'il y ait création des stations phoniques, soit en réserve naturelle spéciale pour la protection des pangolais, comme on observe les okapis sont protégés lorsque nous voyons la station des Poulou. Mais j'ai deux questions à poser à l'invité. La première question, et monsieur l'invité, j'aimerais qu'il puisse nous expliquer, que faire pour que l'activité du tourisme soit reconnue et motiver la jeunesse congolaise vers le bas âge? Sinon, on voit que vers le bas âge, on ne s'intéresse pas, on ne reconnaît même pas l'activité du tourisme, alors que ça fait la fierté d'un pays. Mais deuxième question, monsieur l'invité, voudriez-vous nous donner les caractéristiques des aires censées être protégées? Lorsque nous voyons les parcs, soit des réserves, ne sont pas protégées, mais on trouve certains individus, soit certaines autorités, se font protéger par des 1000 policiers, alors que ces aires, il y aurait des aires qui sont censées être protégées. Merci, monsieur.
Bien, merci. Professeur Amundala Drazo, vous avez la parole.
Voilà, je commence par la première question de notre auditeur qui dit quelles sont les activités de tourisme. Comment faire pour que certaines activités de tourisme soient reconnues dans notre pays? C'est ça, si j'ai bien compris la question.
Oui, c'est ça la question, mais aujourd'hui on se focalise plus sur le braconnage. Donc, par exemple, c'est le deuxième qui pose la question, pourquoi les parcs ne sont pas bien protégés aujourd'hui? Les braconniers ont accès aux parcs et peuvent aller tuer, attraper ces animaux. Et il y a un qui a même expliqué comment ils opèrent. Les chasseurs vont avec des chiens, ils tentent des pièges pour attraper les pangolins.
Il faut reconnaître que la plupart de nos parcs nationaux n'ont pas suffisamment de gardes-parcs, n'est-ce pas? Les étendues sont excessivement grandes, mais nous n'avons pas suffisamment de gardes-parcs pour assurer la sécurité de ces parcs nationaux. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est la motivation. Il faut reconnaître que ces éléments des gardes-parcs ne sont pas suffisamment motivés parce qu'ils bravent des braconniers, parfois surarmés, beaucoup plus armés qu'eux. Et c'est comme ça qu'ils sont parfois en difficulté de pouvoir protéger, sécuriser les aires protégées. Mais une autre chose que je dois dire, c'est que le garde-parc peut bien faire, mais aussi les populations riveraines. Vous savez, il y a une chose que j'ai toujours dit ici, c'est que les hommes de droit, la population riveraine, l'armée, etc., c'est tous ces groupes de gens qui devaient sécuriser nos aires protégées. Et je me dis, les gens ne trouvent pas suffisamment ils considèrent pas les animaux parce que le tourisme et l'écotourisme n'est pas bien organisé chez nous. Et donc, les gens ne voient pas pourquoi on doit pouvoir protéger les animaux. Ça signifie donc que lorsqu'on va commencer, si on commençait à organiser correctement l'écotourisme, les gens vont dire, si nous avons un éléphant, 10 personnes, 20 personnes viendront juste regarder l'éléphant et ils vont payer autant d'argent. Comme ça, les gens vont commencer à comprendre l'importance. Ceci dit, la sensibilisation reste un élément fondamental pour pousser tout le monde. Nous savons que nos aires protégées, l'ICSN n'a pas vraiment les moyens de sa politique. Et donc, maintenant que les gens commencent à comprendre un peu, il va falloir encore que les sensibilisations continuent, l'importance écologique, l'importance de tous ces groupes de la biodiversité, et alors ça va pousser les gens à se dire, nous sommes obligés de protéger nous-mêmes cette biodiversité parce qu'elle joue un rôle important pour notre vie. Et à ce moment-là, on peut arriver à bien préserver nos forêts, nos aires protégées.
Oui.
Mais aussi soulignons que la plupart des aires protégées créées antérieurement ne suivaient pas un certain nombre de règles. Par exemple, vous pouvez se réveiller aujourd'hui pour dire ici, l'étendue ici constitue une aire protégée sans tenir compte de la croissance démographique, etc., du nombre de personnes qui vont dans les mers où ils vont construire et tout. Et donc la nouvelle politique voudrait qu'avant d'ériger une étendue en aire protégée, on doit faire on doit consulter la population, lui montrer l'importance de cette aire protégée, et comme ça, cette population riveraine doit pouvoir s'impliquer, et elle-même sera en mesure de sécuriser, bien évidemment, avec les comptables qui sont autour de dans ces aires protégées.
Voilà. Et quelles sont les stratégies à mettre en place pour lutter efficacement contre le braconnage des pangolins?
Aujourd'hui, il y a déjà un certain nombre de stratégies qui sont mises sur pied. Par exemple, ce qu'on fait au niveau des frontières. Empêcher strictement que les gens sortent avec ça. Empêcher. Mais déjà, au niveau des bases ici, il faut décourager le paysan, il faut arrêter, il faut punir les gens qui essayent de braconner ces groupes zoologiques qui diraient c'est inoffensif. Déjà, au niveau de la base, il faut commencer à décourager les gens. On peut le faire, on peut commencer par la sensibilisation, comme j'ai dit, les ONG, tout ça, organiser des promenades, comme même le collègue avait dit ici, ou faire des promenades avec les élèves, etc., pour essayer de voir, visiter, essayer de voir vraiment ces différents groupes zoologiques, parce qu'il faut dire que beaucoup de Congolais, on dit que nous avons une grande biodiversité, mais c'est rare de trouver les gens qui ont déjà vu à live, comme ça, comme on dit, des groupes zoologiques. Il y en a qui parlent des pangolins, mais ils l'ont jamais vu en face. Mais lorsqu'on essaie de montrer aux jeunes gens, etc., ils finissent par voir l'importance de ces animaux. Par exemple, pour les pangolins aujourd'hui, les pangolins se nourrissent essentiellement de termites et de fourmis. Et ils jouent le rôle de réguler la taille des populations de fourmis et de termites. Et si on arrivait à éradiquer tous les Congolais, voyez-vous, le nombre de termites et de fourmis qu'on aura. Et donc ça risque de créer des problèmes très sérieux. Mais déjà, avec le nombre de termitiers qu'on pourrait avoir dans les différentes régions, ça peut avoir des conséquences sur la dynamique forestière. Donc ce sont des groupes biologiques avec une importance écologique vraiment, vraiment de pointe. Et là, si on arrive à expliquer aux gens et qu'on donne un certain moyen de sa politique, je pense que les choses pourront aller.
Bien, professeur, on peut dire que le pangolin a la taille d'un, disons, d'un lapin.
Il faut dire que les pangolais, il y en a, il y a les pangolais géants, par exemple, dont les adultes peuvent avoir plus de 50 kilos, plus de 30 kilos, 30 à 50 kilos, les pangolais géants. Mmh. Oui, mais il y en a qui sont tout petits aussi, dont le poids peut aller de 2 à 5 kilos.
Voilà. Et lorsque les braconniers là, les sortent, c'est ils les sortent encore vivants ou ils sont déjà tués et puis bon, ils recueillent seulement les écailles et puis ils laissent tomber la viande.
Voilà, donc on peut avoir les pangolais, disons les braconniers, ils tuent l'animal. Je l'ai dit au début que c'est un animal inoffensif, c'est presque immobile. Lorsqu'il est en contact avec un intrus dans son environnement ou dans son domaine vital, il s'enroule sur lui-même. Et donc, le braconnier, il ramasse juste l'animal et il peut, il cherche au niveau de sa tête parce que la partie dorsale est couverte presque complètement d'écailles. Et alors, il essaie de couper, de trancher sa tête. Et dès qu'il a tranché, il peut prendre et l'animal, et la chair, donc, et les pangolins, et les écailles. Parce que la chair aussi est vendue, mais également les écailles. Mais de plus en plus aujourd'hui, les gens ont tendance plutôt à ne considérer que les écailles. Et ils les mettent dans les sacs pour essayer d'amener ça en Asie, etc. Mais donc au village aussi, les gens consomment. Mais au début, on consommait déjà cet animal. Dans beaucoup de cultures ici, en province orientale, par exemple, il y a des cultures dans lesquelles les gens donnaient déjà une certaine importance sur le pangolais. Et donc, ils n'étaient pas trop braconnés. Mais avec les commerces actuels, c'est ça qui a accéléré vraiment le braconnage autour de ces groupes zoologiques.
Bien. On va accueillir Glody Bouanganga des Bandundouville. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour également à l'invité. Bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capitale.
On vous écoute, Glody.
Oui, merci beaucoup pour la parole accordée. Je pense que c'est très capital. Nous devons nécessairement préserver les espèces sauvages qui sont en voie de disparition, entre autres le pangolin. Mais ce que je peux vous dire, c'est quoi? Par exemple, ici dans la province du Kwilu, précisément dans la ville-province de Bandundu et dans les grands Bandundu en général, nous constatons ceci. Il y a certaines espèces animales qui sont en voie de disparition, qui n'existent presque plus. et aussi à certaines espèces ornithologiques qui n'existent presque plus parce qui est en train de menacer, qui sont en voie de disparition. Alors moi je pose la question à l'invité. Qu'est-ce que nous pouvons faire nécessairement pour protéger les espèces sauvages qui sont en voie de disparition? Parce que, par exemple, ici dans la ville de Bandung, la chasse se fait en désordre. Il n'y a pas même de période dont un individu peut exploiter la forêt quand il veut, à tout moment il veut, à chaque temps qu'il veut. Est-ce que y a-t-il pas possibilité de mettre un peu de l'ordre sur ce point-là et de voter aussi des lois? Par exemple, les députés peuvent aussi voter des lois par rapport à ce qui concerne la forêt, parce que c'est pas normal. Nous risquerons de perdre toutes les espèces sauvages qui sont là en voie de disparition. Alors ça va être un danger pour nous, parce que quand nous exploitons trop la forêt, nous risquerons de perdre, parce que la biodiversité aussi est en danger. Il y a certaines aussi, il n'y a pas nécessairement des espèces sauvages qui sont en voie de disparition.
Glody, là-bas, est-ce que là-bas, à Bandunduville, il y a des pangolins?
Ça n'existe presque plus, parce que c'est en voie de disparition. Ça n'existe presque plus. On ne le voit même plus.
D'accord, merci. Alors, merci. Professeur Amundala Adrazo, vous avez la parole.
Oui, merci. Donc je dois souligner ici que parmi les facteurs qui contribuent à l'extinction des espèces, il y a d'abord la pression des chasses. Lorsque l'homme se met à chasser, parce qu'on doit dire que l'homme c'est un des groupes de zoologiques très dangereux, lorsqu'il s'implique dans une activité comme le cas ici la chasse, il utilise les armes, etc., et il tue en nombre exagéré. Et l'autre facteur, c'est la destruction de l'habitat de ces groupes zoologiques en présence. Mais donc ici, la chasse fait peser une grande pression sur le pangolin, mais aussi la destruction de son environnement. Lorsque les gens font, par exemple, la culture itinérante sur Brune, nous avons dit qu'il y a des pangolins qui vivent dans la région forestière et d'autres dans la région de savane. Mais lorsque vous détruisez l'habitat des pangolins de la région forestière, vous l'exposez à la mort, vous voyez. Et donc, il y a tous ces aspects qui doivent être pris en compte pour que les différents groupes zoologiques puissent se maintenir. Et donc, ici, il y a d'abord un problème de fond, la gouvernance. On doit essayer de voir au niveau, quelqu'un a suggéré ça déjà, au niveau des assemblées provinciales, même au niveau
de l'Assemblée nationale, voter des lois.
Essayer de voter des lois de manière à protéger strictement ces groupes zoologiques. On dit toujours que pour la biodiversité, il y a ce qu'on appelle la valeur optionnelle de la biodiversité. C'est la valeur des espèces qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui, qui pourraient être découvertes demain avec le progrès de la science, etc. Et donc si nous exploitons de manière irrationnelle notre biodiversité, demain on arrivera à s'apercevoir qu'il y a des espèces qui pourraient peut-être servir pour telle ou telle maladie, etc., alors qu'on l'aura déjà exterminé. Et donc c'est très dangereux, il faut que des mesures soient prises maintenant pour que en dernier lieu, qu'on ne regrette pas. Et donc voilà, je pense que si on arrive à gérer ces problèmes de pression, la pression des chasses sur les animaux, ça signifie qu'il faut qu'il y ait des études de base pour essayer de montrer tel groupe biologique s'est reproduit à telle période, et comme ça la fermeture des forêts dépendra effectivement des résultats de terrain pour dire si à telle période, si vous ne chassez pas les animaux à cette période-là, sauf pendant la période de reproduction, on leur donne le temps de reproduire et vous pourrez revenir quelques temps après pour pouvoir les chasser. J'ai dit dans une forêt communautaire ou dans une forêt normale, mais dans les parcs nationaux, on devra interdire l'accès vraiment de manière stricte, de sorte que les groupes zoologiques qui se trouvent protégés dans les aires protégées puissent être là et servir de base. Mais également, on devra essayer à réhabiliter certains jardins zoologiques pour essayer de présenter aux élèves et aux communautés les différents groupes zoologiques que nous avons. Parce qu'en les voyant, on peut développer aussi une certaine, si vous voulez, amitié, etc., avec ces animaux, et on aura alors plus tard pas envie vraiment de les abattre. Les problèmes arrivent lorsque les gens ne connaissent pas les animaux, etc. Pour eux, ils ne voient que l'aspect argent et nourriture. Mais lorsqu'on essaie de leur expliquer les avantages écologiques, etc., tout ce que ces animaux font pour l'humanité, je crois que petit à petit, on peut arriver à juguler ces sujets. Donc, il
ici, le problème qu'il faut gérer, c'est la pression sur la pression de chasse sur les animaux, mais également la destruction de l'environnement, des habitats de ces différentes écologies.
Bien. Alors, professeur, s'il y a braconnage, le marché des pangolins, vous avez parlé de la Chine, ça veut dire qu'il n'y a pas que les braconniers, c'est tout un réseau. Les braconniers peuvent tuer, mais il y a des gens qui s'occupent du transport, la sortie de tout cela. Pourquoi ne pas impliquer les services des migrations pour freiner la sortie, pour lutter contre le braconnage de ces mammifères?
Tout à fait. Et donc, c'est comme je l'ai dit, j'ai souligné un certain nombre de groupes de personnes qui devraient en priorité être impliquées, mais c'est une affaire de toute la communauté. Tout le monde doit s'impliquer. Lorsqu'on voit qu'il y a des gens qui circulent, par exemple, qui ont dans leur sac, etc., on peut signaler de manière à ce que ces gens-là soient appréhendés. Donc, c'est l'affaire de tout le monde. C'est le patrimoine congolais. Et tout le monde doit pouvoir mettre la main à la pâte pour pouvoir protéger ses patrimoines. Parce qu'au final, là, ce sont les autres là qui tirent beaucoup plus d'intérêt sur le patrimoine congolais. Et donc tout le monde doit mettre la main sur la pâte pour essayer de protéger ces patrimoines congolais. Et donc tous les services de l'État devraient vraiment s'impliquer pour protéger. C'est vraiment comme quelqu'un qui a un bien et il ne voudrait pas que quelqu'un qui vient de l'extérieur ou même le fils de la maison puisse utiliser de manière irrationnelle le bien que nous avons. Surtout que nous avons dit, pour la biodiversité, il y a ce qu'on appelle la valeur optionnelle. Donc on ne connaît pas encore toutes les valeurs que la biodiversité récolte aujourd'hui. Et au fil du temps, avec les progrès de la science, on finirait certainement à découvrir bien d'autres choses. Vous voyez par exemple pour le pangolin ici, il y a 5-10 décennies, les gens ne connaissaient pas vraiment tout ce qu'on est en train de raconter aujourd'hui sur les pangolins. À vérifier encore si c'est vrai, parce qu'à mon sens, les écailles des pangolins ne contiennent que des kératines. Et la kératine, ça, on peut avoir dans nos ongles, etc. Mais on ne sait pas, c'est peut-être dans la tête des gens. Mais pour moi, je suis convaincu que la biodiversité a des valeurs que l'humanité n'a pas encore complètement découvertes. Et donc, il est très important que nous puissions protéger notre biodiversité de manière à ce que le jour où on découvrira d'autres valeurs, on pourra donc s'en servir. Mais également, le fait de protéger la biodiversité aide à l'équilibre des écosystèmes parce que chaque espèce a un rôle particulier à jouer dans l'écosystème. Si vous enlevez cette espèce, il n'y a pas une autre qui viendra jouer le rôle de celle qui vient de partir. Et donc, la disparition des espèces dans tout écosystème crée des déséquilibres. Il appartient donc à tout le monde de pouvoir mettre la main à la pâte pour protéger le patrimoine que nous avons.
Voilà, même au niveau interne, on voit certains vendeurs au coin des rues en train de vendre les pangolins et au vu aussi de tout le monde. Et puis il y a pas de souci. Peut-être c'est par ignorance ou c'est voilà, ça se passe comme ça.
Voilà. Et donc c'est comme j'ai dit, il faut que tout le monde soit informé. Quelqu'un, vous pouvez venir avec si vous l'avez fait, par exemple, une fois et que personne n'achète, par exemple. Et donc, vous serez découragé. Ou si quelqu'un fait des choses comme ça, on essaie de l'interpeller, de lui poser des questions, de l'inquiéter, etc. Ah, je crois que la prochaine fois, il ne fera pas. Surtout pour des groupes zoologiques qui sont menacés d'extinction, comme le pangolin aujourd'hui. Il faut reconnaître que si on continue avec la même allure, d'ici quelques années, on risque de perdre les groupes zoologiques, là, dont l'importance est très très importante et vraiment assez élevée aujourd'hui. Vous avez suivi vous-même les études du IAP avec la COVID-19. On a à un moment donné imprimé les pangolins comme étalons intermédiaires de virus. Et donc les études sont encore en cours. Peut-être que ça pourrait être dit autrement dans les jours qui viennent. Et je suis presque certain qu'on découvrira bien des choses parce que les pangolins constituent un des rares mammifères. Vous savez que tous les mammifères ont le corps complètement couvert de poils. Mais le pangolin, lui, a une partie de corps, une partie de son corps est couvert d'écailles. Et donc, il est possible qu'il puisse avoir certaines particularités aussi sur le plan physiologique, etc. Donc, c'est un groupe qu'il faut absolument protéger. Et c'est maintenant qu'on doit protéger ces groupes. Et c'est tout le monde qui doit s'impliquer dans la protection de ces groupes.
Bien, on va accueillir Monsieur Claude Kéboy, coordonnateur de l'ONG Synergie Rurale, Action Paysanne, et une structure qui évolue dans la conservation de la faune sauvage. Monsieur Claude Kéboy, bonjour. Monsieur Claude Kéboy, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, je vous suis. Bonjour.
Bienvenue dans cette émission. Vous intervenez depuis Mouchy. Alors, Monsieur Claude Keboy, dites-nous qu'est-ce qui est fait au niveau de votre ONG pour protéger les pangolins.
Merci beaucoup pour la question. Notre ONG travaille sur la protection des pangolins dans la province de Maïndombé. Et là, nos activités ont déjà couvert pratiquement 30% de la province, notamment le territoire de Koutou et de Choué. Nous travaillons sur la sensibilisation, l'éducation, la conservation évidemment, et puis la recherche. La sensibilisation porte sur la connaissance de statut de pangolin, de statut de conservation de pangolins auprès des populations locales. Là, nous entrons dans les villages et souvent nous utilisons aussi les radios communautaires. Également, nous travaillons sur l'éducation et c'est ce que nous venons de faire cette année, à la fin de l'année passée et au début de cette année 2021. Nous avons travaillé sur plus ou moins 10 grandes cités de deux territoires, territoire de Koutou et le territoire de Oshoué. Et là, nous avons organisé des ateliers, une série d'ateliers avec le responsable de l'État, c'est-à-dire ceux qui sont impliqués dans la justice, la conservation et tout ce qui est lié à la lutte contre le commerce de pangolins. Nous avons travaillé avec le magistrat, les agents de l'immigration, les agents de services de sécurité, notamment les policiers, et parce qu'il y a braconnage, donc nous avons aussi travaillé avec l'armée, ceux qui sont représentés ici, notamment la force navale et les auditeurs, l'auditorat aussi, l'auditorat militaire, parce que...
C'est quoi le message que vous donnez à toutes ces catégories-là?
Oui, pour les agents de l'État, nous leur montrons comment... en fait, nous leur donnons les éléments sur la lutte contre le commerce, notamment la réglementation. Lorsqu'ils arrêtent par exemple quelqu'un avec le pangolin ou les écailles du pangolin, qu'est-ce qu'ils doivent faire à ce moment-là? Parce que nous avons remarqué par exemple que lorsque vous passez par ici dans le Maïndombé, vous verrez que même les autorités de l'État, parfois les députés, les élus, achètent le pangolin, ils se promènent avec, parfois ils montent avec dans les avions sans qu'ils soient inquiétés. Donc déjà, il y a un problème d'ignorance au niveau même de responsables de l'État.
Pourquoi ils se promènent avec les pangolins?
Mais parce qu'ils savent que personne ne les inquiète, quoi. Ils savent que les agents sont ignorants de la loi, ils savent pas que le pangolin est protégé. Donc lui-même parfois il peut le connaître, mais bon, il fait fi, il passe avec, bon. Voilà quoi, c'est un problème de l'ignorance d'abord qu'il faut combattre dans le commerce de pangolin.
Bon, peut-être qu'il l'utilise comme un animal de compagnie.
Ah non, on peut pas le faire comme ça parce que lorsqu'on est autorité, on est par exemple élu, on est responsable d'autorité politico-administrative, on est censé, ou de sécurité, on est censé connaître la loi. Comment est-ce qu'on peut connaître que l'ivoire est interdit et on ne peut pas passer avec et qu'on oublie que le pangolin également est interdit de chasser, de braconner et de commercer. Voilà, mais si vous voulez passer avec comme ça, vous devez avoir une autorisation. Est-ce qu'ils ont des autorisations? Non.
Et pourquoi avoir choisi Mouchy? C'est parce que là-bas, le taux de braconnage est très élevé?
Mouchy, c'est pour vraiment autre chose que je me retrouve ici, et bon, comme l'émission passe, mais en fait, nous travaillons plus dans tout le Maïndombé, évidemment, mais on a déjà travaillé sur Niuki, Koutou, Bokoro, Tolo, Oshoué, Bossobé, Semendoa. À Inongo, également, nous avons laissé les gens en train de préparer notre atelier. Donc, à Mouchy, je veux le faire, je crois, la semaine prochaine également.
Donc, on peut dire que c'est dans les Maïndombé où il y a beaucoup de braconniers?
Oui, pour la simple raison qu'il y a l'ignorance de la loi, mais aussi la proximité avec les grandes villes, Kinshasa et Brazzaville. Vous voyez, la frontière Maïndombe-Congo-Brazzaville part d'Nkana jusqu'à Yumbi pratiquement. Ils ont plus de 300, à peu près 600 kilomètres. Alors, le deux peuples de deux frontières, c'est fréquent. Vous voyez, si vous êtes par exemple en Pouya, en face du Congo-Brazzaville, quelqu'un peut traverser, il vient passer toute la journée de l'autre côté à Timbiri. Et il rentre dans sa pirogue, personne ne le contrôle. Donc tout ça, il y a de l'autre côté, les deux frontières, il y a toujours le marché qu'on appelle le marché public là. Et là, il y a plusieurs gibiers qui sont vendus. Et les gens peuvent passer dans les pirogues avec des sacs de taille. Et bon, voilà quoi. Donc ça sort par Brazzaville où ça va vers le Cameroun, mais en fait, les écailles là viennent du Congo, de la RDC, vous voyez. Donc la frontière, comment dirais-je, porose, et il n'y a vraiment pas de sécurité dans ce sens-là. Voilà.
Bien, on va accueillir Moulimbi depuis Kisangani. Bonjour.
Bonjour, je dis.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au braconnage des pangolins?
Oui. Par rapport au braconnage des pangolins, moi j'ai pourrais dire ceci. La grande question que le parc national doit d'abord se poser, c'est de savoir d'abord pourquoi il y a d'abord braconnage. S'il y a braconnage, c'est parce qu'il y a la faim, il n'y a pas de travail. Si le parc veut exister réellement, que ces derniers contribuent dans des grandes alimentations, dans des parcs agro-industriels, comme Bukangalos, comme nous avions suivi, nous avons vu, s'ils contribuent, et que s'il y a de la nourriture, s'il y a des bovins à masse, les gens n'iront pas chasser les gibiers dans le parc. Admettons que je pousse des bovins. On peut recourir au gibier? Non, je ne pense pas. C'est le propriétaire des parcs qui ne savent pas qu'est-ce que réellement faire pour maintenir le parc. Moi, je vais leur donner des conseils que l'argent qu'ils contribuent, qu'ils amassent en achetant des armes, des munitions, tout ce qu'on sort, qu'ils achètent des gibiers, qu'ils fassent des parcs agro-industriels dignes de ce nom, pas comme nous avons fait au Bukangalonzo. Cela réduira
la pression.
La menace au parc, oui. Sans cela, ils vont pléricher et le parc disparaîtront. C'est ça, monsieur.
Merci. Professeur Amundala Drazo, vous avez la parole.
Oui, merci. Bon, je dois dire que il y a des gens qui, selon leur habitude alimentaire, ils préfèrent bien manger de la viande de brousse. Mais alors, pour régler ces problèmes, nous avons essayé ici de sensibiliser les gens à faire ce qu'on appelle le game rushing ou le game farming. Ça signifie quoi? On peut prendre des groupes zoologiques sauvages, on les associe avec les animaux domestiques. Ça marche. Ou encore, là, ça va dans les cadres de game farming. Mais dans les cas de game ranching, on peut disposer des ranches, donc des grandes étendues dans lesquelles on clôture, hein, on fait des clôtures, et on laisse les animaux à sa liberté. On essaie de faire l'élevage de ces animaux là-bas, et on peut très facilement, lorsqu'on en a besoin, aller les attraper, les tuer. À la faculté des sciences de l'Université de Kisangani ici, nous avons réussi à élever les olacodes, les similiques, je crois que vous connaissez. Oui. Et donc, il y a des gens qui veulent manger ça, et alors on peut justement passer derrière la maison, parce qu'on a cet élevage-là, on le prend et on mange. Cet élevage a plusieurs avantages, parce que ces animaux ne réclament pas trop de soins. Il suffit de leur donner des aides, etc., et vous les avez. Et donc ça pourrait effectivement aider. Mais aussi essayer autour de jardins, de bien protéger, créer, de développer des activités alternative génératrice de revenus. C'est vrai que la population est pauvre. Lorsque vous demandez à la population de ne pas rentrer dans les aires protégées alors qu'il n'a rien à manger, mais il voit les animaux là-bas, ça n'est rien dangereux. Mais si on lui apprend par exemple à faire la pisciculture, là, il a la possibilité d'avoir très facilement de nourriture carnée à partir de laquelle il a la possibilité d'avoir la protéine animale. Et donc, créer des alternatives génératrices de revenus autour des aires protégées pourrait aider à réduire la pression sur les aires protégées et alors assurer la conservation durable des ressources naturelles que nous avons dans nos aires protégées. Ceci dit, aussi comme je l'ai dit par le passé, les aires protégées ont été créées comme ça, sans tenir compte de la croissance démographique des gens. C'est déjà un problème, vous voyez. Le nombre des gens augmente et il y a des gens qui... La population a besoin de quantité de ressources pour assurer sa vie. Mais si on ne lui donne pas la possibilité d'avoir des moyens pour se nourrir, donc il a juste les aires protégées pour pouvoir puiser des ressources et alors se maintenir dans la vie. Et donc, une des solutions, c'est vraiment créer des activités génératrices
des revenus. Des revenus, oui.
Dans les environs des aires protégées. Mmh. Comme ça, les gens auront ce dont ils ont besoin. Ils n'auront plus la possibilité d'aller dans les aires protégées, parce qu'ils auront autour de leur maison, par exemple, comme je viens de parler ici des olacos, quelqu'un qui a l'habitude de manger la viande de bouse, il peut juste prendre des olacos et les gauches, ils mangent. Et donc, ça, c'est une stratégie, à mon avis, qui pourrait aider de manière efficace à réduire la pression sur les aires protégées. Mais aussi assurer, on ne doit pas oublier, assurer vraiment la sécurité de les protéger, de manière à ce que les gens n'y entrent pas et que les animaux qui s'y trouvent puissent être en liberté. Mais on sait que aussi depuis un temps, dans beaucoup d'aires protégées ici, on a plutôt des groupes d'armées qui, lorsqu'ils sont là, ils utilisent les animaux de la forêt, des parcs nationaux pour se nourrir, mais également l'exploitation minière. Dans la plupart de nos aires protégées, il y a l'exploitation minière qui s'est faite. Nous avons dit que une des raisons qui favorise l'extinction des espèces, c'est aussi la destruction de son habitat avec la présence de carrés miniers, etc., dans les aires protégées. Ça fait faire en sorte que les animaux puissent perdre leurs abris et donc difficilement ils seront à mesure de se reproduire.
Bien, professeur Amunda Ladrazo, zoologiste et écologiste depuis Kisangani, merci et excellente journée.
Merci à vous, monsieur le journaliste. Excellente journée.
Bien, on va accueillir Jetri Santos. Il est ingénieur en environnement depuis Goma. Bonjour.
Bonjour, Sidio.
Quelle est votre préoccupation?
Ma préoccupation était de proposer à l'Institut international de conservation de la nature une approche qui demeure du tout participative pour bien gérer les ressources naturelles. Et il faudrait que cette institution pense comment est-ce qu'elle peut se rapprocher auprès des communautés riveraines qui vivent du tout autour des réserves naturelles ou des parcs nationaux, afin de voir comment est-ce qu'on peut remplacer les ressources des parcs par d'autres ressources. C'est par exemple, comme il y a le braconnage de certaines espèces rares, on peut proposer aux populations
des activités alternatives.
Oui, des activités alternatives. Par exemple, l'élevage des bovins, des petits ruminants, mais aussi des activités champêtres, pour que les espèces rares qui tendent à disparaître dans nos parcs nationaux et réserves naturelles puissent aussi se développer et le pays peut en bénéficier comme étant une ressource sur le plan international et sur le plan national.
Merci Gertrude Santos. Merci beaucoup Gertrude Santos de Goma. Monsieur Claude Keboy, pour terminer, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter efficacement contre le braconnage des pangolins? En quelques secondes. Claude Keboy, vous êtes là? Je crois qu'il est en train de faire autre chose. Bien, nous lui disons merci. Nous rappelons que Claude Keboy est coordonnateur de l'ONG Synergie Rurale, Action Paysanne. Il est intervenu depuis Mouchi dans la province du Maïndombé.
Découvrez les modèles et les talents congolais dans le magazine Étoile. Des hommes et des femmes au parcours exceptionnel. Trouvez une source d'inspiration à travers ces personnes connues et ces citoyens lambda sur Radio Capi. Étoile, de la découverte à l'inspiration. Radio Capi vous propose des hommes et des femmes d'exception. Suivez-les dans le magazine Étoile tout le samedi à 14h05 et 19h05, puis en rediffusion le lundi à 15h30, heure de Kinshasa.